Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Virginia Crespo.
Monsieur Gabriel De Breuil, chancelier de l'Institut de France, et Madame Hélène Carrère-Nancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, se sont rendus en Haïti du 5 au 8 septembre 2012 pour visiter les programmes de Bibliothèque sans frontières, la BSF, mis en œuvre dans le cadre du Grand Prix culturel de la Fondation Louis D, remis à cette association, dite BSF, en 2010, à la suite du terrible séisme qui a secoué celle que l'on baptisait au cours des siècles la perle des Antilles, Haïti. Canal Académie a le plaisir de recevoir le chancelier Gabriel De Breuil pour recueillir, dans un premier temps, ses impressions, réflexions, réactions à la suite de ce voyage. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer de façon ludique, si vous deviez utiliser 5 mots pour définir vos impressions de voyage, de rencontre, de découverte peut-être, ces mots, quels seraient-ils et quels mots vous viendraient donc instinctivement en pensée?
Écoutez, d'abord découverte.
Premier voyage?
Premier voyage en Haïti. J'avais été plusieurs fois dans les Antilles, pas toutes bien entendu, mais pas les grandes, d'ailleurs, sauf Porto Rico, j'ai été plusieurs fois, mais en Haïti jamais. Et donc découverte, avec une idée, un présupposé, qui était découverte de l'histoire d'Haïti. Et Haïti est un pays qui a une histoire et qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle plonge ses racines dans la Révolution française. Ce sont des épisodes marquants de la Révolution et du 19e siècle, d'ailleurs, c'est très 19e siècle. Et donc, l'évocation de ces souvenirs est quelque chose d'intéressant.
Alors, justement, avant d'aborder le côté historique d'Haïti, les Français, dit-on, sont en général mauvais en géographie. Nous allons donc les aider un peu, aider nos auditeurs, monsieur le chancelier, en rappelant que les Antilles sont un vaste archipel situé dans la mer des Caraïbes. Cet archipel formant un arc de cercle de 3500 km de long qui s'étend depuis Cuba jusqu'au large du Venezuela. Et ces Caraïbes couvrent environ 235 000 km² de terre émergée pour 42 millions d'habitants. Alors, notre République d'Haïti est un pays de ces grandes Antilles, sa capitale est donc Port-au-Prince. La population d'Haïti même est estimée à 10 millions d'habitants avec beaucoup de citadins et
oui,
une population chrétienne.
C'est une des découvertes, c'est que 9 ou 10 millions d'habitants, on ne sait pas très bien, mais je crois qu'il vaut mieux dire 10 millions d'habitants, c'est considérable. Et Port-au-Prince oscille entre 2,5 millions et 3,5 millions d'habitants, avec un exode rural qui continue d'ailleurs. Je ne sais pas s'il faut l'appeler exode rural, c'est une concentration de la population dans Port-au-Prince, ce qui est en fait une ville très importante et malheureusement qui était une belle ville. C'est un des aspects de la découverte, c'est que, il faut en dire un mot, c'était une très belle île et avec des paysages, avec une architecture, avec des villes, avec des vestiges anciens tout à fait intéressants. Et donc, quand on consulte les livres d'images, il y a de beaux livres illustrés sur Haïti, même en 1980.
Mais vous, ce que vous en avez perçu aujourd'hui,
alors,
en 2012
le désastre est arrivé en janvier 2010, ce séisme épouvantable, qui a atteint surtout la région de Port-au-Prince, mais il y a eu 250 000 morts en quelques instants. Et la terre a tremblé très violemment. Elle n'a pas tout détruit, d'ailleurs, c'est peu compréhensible. Certains quartiers sont dévastés, certaines maisons ont résisté. Bon, c'est une catastrophe, c'était vraiment épouvantable. La terre a d'ailleurs continué à trembler après, et c'est pas tout à fait terminé. Il y a eu des secousses la nuit. Moi, je m'en suis pas aperçu, mais on nous a dit qu'il y avait eu... Donc, ce pays est extrêmement éprouvé. Alors, ce que nous avons découvert... Là, ça n'est pas la perle des Antilles, je dois vous dire, c'est un pays vraiment très éprouvé et qui fend le cœur, tellement on est porté à un mouvement de sympathie pour ce pays très pauvre de toute façon, mais qui est devenu l'un des pays les plus pauvres de la planète, à cause de ce séisme dont on ne se remet pas comme ça.
Votre périple vous a entraîné à Port-au-Prince uniquement ou vous avez rayonné?
Uniquement, on ne circule pas. On ne circule pas. Les routes sont en très mauvais état. C'est déjà très difficile de circuler dans Port-au-Prince. On ne circule pas, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de...
2 ans après, c'est encore un pays en détresse.
Oui, 2 ans après, et étant donné l'absence d'équipement, l'absence d'infrastructure, Et, il faut dire aussi, se pose un problème de sécurité qui n'est pas résolu. Même à Port-au-Prince même, dans le centre de Port-au-Prince.
Vous nous disiez être attaché à cette histoire de Haïti qui a ses pages dans notre histoire de France. Alors, tout commence avec la découverte de Christophe Colomb, qui, en découvrant les Antilles, se trompe, pense découvrir...
Pense que c'est l'Amérique, ouais, c'est ça.
Et il y a donc toute une période coloniale française qui s'attache à cette histoire de Haïti. Tout commence avec l'arrivée de flibustiers français sur cette île de la Tortue, au nord. Alors c'est toute une épopée, une aventure.
Oui, oui, tout ça est très touchant et attachant. Nous avons toutes les raisons de nous intéresser à l'histoire de cette île. Elle était espagnole d'abord, et elle s'est appelée longtemps Hispaniola. Alors, en effet, des flibustiers débarquent vers 1640, et parlant français. J'ai relevé devant mes interlocuteurs en Haïti que c'était à peu près le moment où se fondait à Paris l'Académie française. Donc, la langue française est apparue à Haïti aussi anciennement. Mais c'était des flibustiers sans organisation sociale. Mais cependant, dès le traité de Ryswick, la souveraineté de la moitié de l'île a été exercée par le roi de France. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une séparation verticale, l'île coupée en deux. À l'ouest, c'est l'Espagne. À l'est, c'est la France. C'était une des Antilles françaises.
Donc, on évoque le nom d'un personnage, lui aussi attaché à l'histoire de l'Institut de France, le personnage du cardinal de Richelieu.
Voilà, on en est à cette époque-là. Mais alors, de cette époque-là, il reste le souvenir de la perle des Antilles et d'une très belle contrée qui a été considérée pendant longtemps comme une terre d'investissement formidable, et il y avait des plantations de canne à sucre et d'autres choses, agriculture assez florissante, et qui avait été à un moment à la mode pour les Français de Paris, de Versailles. Ils achetaient des plantations à Haïti. Certaines subsistent d'ailleurs et ont conservé leur nom d'autrefois. Eh bien, c'était jusqu'à la Révolution une colonie florissante, disons-le.
Alors, à quel moment Napoléon Bonaparte doit céder la place ? À quel moment c'est...
Alors, il faut d'abord évoquer la révolte des esclaves. Et donc, il faut d'abord évoquer l'esclavage, qui est un phénomène qui a marqué très profondément l'histoire d'Haïti, devant lequel on est obligé d'être ému et de se poser toutes sortes de problèmes. Et je dois dire qu'une des choses intéressantes découvertes de ce voyage en Haïti, c'est la découverte de la conscience historique et de la conscience de ces événements terribles qu'a connu Haïti, qui est encore très présente et très mûre dans la population, et que les gens, disons l'élite, les traits d'Haïti, expriment extrêmement bien. Ils parlent, ils vivent ces souvenirs historiques avec douleur, mais avec romantisme, avec poésie même. Là, il y a une verve poétique en Haïti qui frappe beaucoup, un goût du langage, un goût de l'imagination qui est très frappante. Cela dénote une ancienne société qui a beaucoup souffert. Et donc, à la Révolution, les esclaves se sont révoltés. La révolte des esclaves. Toussaint Louverture, le grand personnage, n'est-ce pas ? Toussaint Louverture, il s'est révolté au nom des principes de la Révolution.
C'est magnifique.
En les invoquant et en ayant un uniforme de général de la Révolution. Et il a chassé les Français une première fois, et puis libéré les esclaves. Ça a été la première abolition de l'esclavage. Le consulat a envoyé une armée pour reconquérir Haïti, a pris pied et a rétabli l'esclavage. Et les révoltés ont repris leur révolte et l'ont emporté une seconde fois. Alors, je ne voudrais pas me laisser aller aux anecdotes, mais enfin tout de même, comment est-ce que les armées du consulat ont été défaites ? Eh bien, dans les armées du consulat, il y avait une légion polonaise enrôlée dans l'armée française qui a débarqué en Haïti. Or, les membres, les Polonais, se sont aperçus qu'on leur demandait de lutter contre des esclaves qui venaient d'obtenir leur libération. Et ils se sont souvenus que nombre d'entre eux étaient des esclaves qui avaient été mis en esclavage par les Russes. Et donc, ils sont passés du côté des esclaves.
Il y a une fraternisation.
Il y a une fraternisation. La Légion polonaise, c'est très présent dans les souvenirs d'ici. Moi, je le savais avant de partir, mais on m'en a parlé. Et à ce moment-là, les armées du consulat ont été défaites. Et sont parties, ont rembarqué, Et l'indépendance d'Haïti a été prononcée, proclamée en 1804. Ce qui a fait que l'un des personnages que j'ai rencontré, qui est un écrivain que j'ai rencontré à plusieurs reprises, notamment au cours des repas, m'a fait des déclarations enflammées en disant « Haïti est le seul pays au monde à avoir vaincu Napoléon ». Alors, c'est pas tout à fait vrai, historiquement.
C'est allé un peu vite, mais...
Et puis, est-ce que ce pays a vaincu Napoléon ? C'est pas tout à fait ça. C'est rejeter les armées du consulat. Bon, alors, voilà. Mais en tout cas, il vivait intensément cette période. Et Haïti a continué de vivre une indépendance. Seule république noire, première république noire au monde, et à vivre cette indépendance très sérieusement, très consciencieusement, si je veux dire, à l'imitation de la France. Alors, ça a posé toutes sortes de problèmes à chaque fois, évidemment. La restauration s'est mal conduite, évidemment, et Haïti a conservé son indépendance, et s'est mis même à l'imitation de la France du XIXe siècle, à tel point que sous le Second Empire, Haïti a proclamé un empereur, et a conservé la couronne de cet empereur. On a son nom, et c'était un mimétisme, n'est-ce pas ? Et lorsque l'Empire est tombé, eh bien, l'Empire d'Haïti est tombé lui aussi quelques années après.
Notre sœur haïtienne.
Et est redevenue une république. Voilà la conscience historique. Alors, il y a un lieu qui est extrêmement émouvant à visiter, qui s'appelle le MUPANA, sont les initiales, musée pour, ça termine par un H, d'Haïti. C'est un monument. En réalité, ce monument est au centre d'Haïti, il est fragile et il n'a pas été touché par le tremblement de terre, donc on le visite avec grand intérêt. Et il est à la fois un monument national, un panthéon et un arc de triomphe, avec une partie aussi musée des Beaux-Arts. C'est extrêmement émouvant et tous les épisodes sont retracés, y compris la couronne de l'empereur. Alors il manque la couronne de l'impératrice, il paraît qu'elle existe et qu'elle est en main privée. Et l'ambassadeur de France, très sympathique, qui nous a reçus, se donne comme mission, avant son départ, son changement d'affectation, de retrouver la couronne de l'impératrice d'Haïti.
Vous nous tiendrez au courant de cette affaire de la couronne en Haïti. Alors, le nom de Haïti a été donné à cette époque, donc le 1er janvier 1804, au moment de l'indépendance. C'est un certain Dessalines qui a redonné ce nom. C'était dans une tribu, les Taïnos, et ça signifierait « terre des hautes montagnes » ou « la montagne dans la mer ». C'est voilà. Très joli. Alors, vous évoquiez il y a un instant ce cruel séisme. Il faut rappeler que Haïti, comme tout le reste de l'île d'Hispaniola, se trouve dans une zone sismiquement très active. Vous en êtes le témoin, puisque pendant votre voyage, la terre continuait de trembler. Parce que Haïti se trouve entre deux plaques tectoniques, la plaque nord-américaine au nord, et la plaque Caraïbe au sud, est donc un pays très vulnérable aux tremblements de terre. On rappelle les chiffres que vous évoquiez tout à l'heure, plus de 200 000 morts et des millions de sans-abri. Votre constat sur place, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, il confirme cela, et ce qui fait qu'il n'y a pas de tourisme. La conséquence, c'est qu'il ne peut pas y avoir de tourisme pour le moment. C'est d'ailleurs très triste, ça pourrait être un élément de revivre, au moins d'attention de la communauté internationale. Mais ce n'est pas possible du tout. Et ce que je regrette beaucoup, c'est de ne pas avoir pris connaissance des autres parties d'Haïti, de ne pas avoir pu sortir de Port-au-Prince. Et ce qui est frappant, c'est que le centre-ville a été très éprouvé, très démoli. Les collines autour ont été en partie épargnées. Or, les belles habitations étaient sur les collines autour. Donc, il s'est produit non seulement ce dramatique événement, mais en plus une sorte d'injustice sociale. C'est-à-dire que les gens privilégiés ont vu leur quartier plus ou moins protégé et que dans le centre-ville et dans les pays qui est tout à fait au bord, la partie qui est au bord de la mer, les ravages ont été épouvantables. Alors, une des choses qui frappe, d'ailleurs, c'est que le bord de mer, comme dans plusieurs des pays qui sont restés à l'heure d'autrefois, le bord de mer est complètement ignoré. Des habitants d'Haïti. C'est le décor, on le voit même pas du centre-ville, on le voit des collines quand on circule, mais on ne s'y rend pas. On ne va pas au bord de la mer. Parce que c'est par là qu'arrivaient les mauvaises nouvelles, les pirates ou les envahisseurs, et que d'autre part, c'est au fond d'une grande baie et qui est, je crois, très polluée. Donc, il n'y a pas du tout de tourisme maritime à Port-au-Prince. Ailleurs, oui. Enfin, il devrait y en avoir, mais pas à Port-au-Prince. Donc, j'avais observé ça dans l'autre ville, n'est-ce pas? Le bord de mer n'est pas du
tout... Est en quarantaine.
Ah oui, 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 on n'y va pas. Oui.
2 ans et demi après ce terrible séisme, l'Institut de France a souhaité soutenir la reconstruction culturelle du pays. C'est là que vous intervenez. Ce sera l'objet d'une 2e émission au cours de cette même série « Point de mire ». Un mot par rapport à cette initiative, à cette mise en route et par rapport à ce prix qui a été attribué pour soutenir cette action culturelle.
Au lendemain du séisme, le monde entier a été vraiment atterré. Et toute la communauté internationale s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour Haïti. L'ambassadeur de France a été admirable. Il était là, l'actuel était en poste. Et son ambassade a été détruite, complètement. Il a occupé une belle villa haïtienne et elle a été complètement détruite. Et l'ambassadeur a donné tout son jardin pour établir des camps de toile, pour recueillir des gens sans abri. Et l'ambassade de France elle-même, c'est-à-dire la chancellerie, a été détruite aussi. Que faire? Tous les pays au monde ont essayé de venir au secours. Les organisations internationales, bien entendu, l'ONU, l'UNESCO, les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Union européenne. Mais le pays qui a le plus fait pour Haïti, c'est la France. Et est intervenu de manière assez admirable, grâce à l'ambassadeur. Et beaucoup d'actions ont été engagées pour porter secours. Et l'Institut a dans sa vocation, n'est-ce pas, les actions de bienveillance, de générosité, de mécénat aussi. Et nous avons été saisis par cette situation que ce pays, cette société qui existe, qui est lettré, je n'en parlerai peut-être tout à l'heure, qui a une littérature. Toutes les bibliothèques ont été détruites. Il n'y avait plus de bibliothèque publique en Haïti. Et notre premier mouvement a été de dire, eh bien, on se porte à ce secours-là et on essaye d'aller sauver les livres. Voilà ce que nous avons essayé de faire.
Monsieur le chancelier, merci pour ce premier témoignage.